Dans 2 jours, c'est-à-dire après-demain, le 14 février, le monde où nous vivons se prépare à célébrer le Saint-Valentin. La raison pour laquelle je vous dis ce fait ce matin, ce n'est pas pour vous rappeler d'acheter le rose et du chocolat à vos bien-aimés, ou pour lancer un débat sur la question de savoir si, en tant que chrétiens, nous devrions célébrer cette fête païenne ou non. La commercialisation massive de célébrations, même saintes, a transformé toute chose en mondaine et réduit à la simple réjouissance économique. Je pense que ce serait profitable de prendre cette occasion pour penser à notre amour pour Dieu, car même la question de célébrer ou non la Saint-Valentin devrait être décidée sur le degré de notre amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vie chrétienne est une histoire d'amour entre Dieu et ses enfants. La Sainte Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu tel que nous est révélé dans ce verset est sans limite. Dieu a tant aimé, on peut voir que c'est il n'y a pas de limite, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de hauteur qui peut limiter cet amour. Et l'amour de Dieu est tel que le ciel a ses horizons, l'océan a le rivage, et même notre imagination se précipite souvent sur ses limites. Mais nous voyons que cet amour divin de Dieu est sans limite. Et bien souvent, nous pensons qu'en tant que être humain, nous aimons et sommes capables d'aimer Dieu ou nos semblables. Rappelons-nous qu'il n'y a rien de bon en nous, car Dieu a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Non, nous sommes créés avec juste une masse de poussière et nous ne sommes pas capables d'aimer. Mais quand le Créateur s'est insufflé dans l'homme qu'il avait créé, il est devenu une âme vivante. Dieu a fait l'homme à son image. Au meilleur de ses caractéristiques, l'homme ne peut refléter une infime partie du caractère de son Créateur. Car l'Écriture nous dit qu'il nous a aimés le premier. Le terme grec « agapé » est souvent traduit par « amour » dans le Nouveau Testament. En quoi cet amour agapé est-il différent des autres formes d'amour? Le premier mot grec pour amour est « eros », qui fait référence à l'amour romantique ou sexuel. De là, nous obtenons le mot « érotique ». Le mot spécifique n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament. Le second est la « storge », qui fait référence à l'amour familial, comme celui d'une mère pour son bébé ou d'un frère et une sœur l'un pour l'autre. Le troisième mot grec pour amour, c'est philia, fait référence à les amitiés, à la camaraderie. Ce mot s'est souvent traduit par ami, celui qui est aimé dans le Nouveau Testament. Enfin, agapé est utilisé pour parler d'amour de Dieu, qu'il a pour le monde et que les chrétiens sont censés imiter. C'est le mot pour amour qui est le plus couramment utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'essence de l'amour agapé est la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé. L'amour agapé implique la fidélité et l'engagement dans la volonté et se distingue des autres formes d'amour par sa nature morale et sa force de caractère. 1 Corinthiens 13 donne une magnifique description de l'amour agapé. En dehors du Nouveau Testament, le terme agapé est employé dans divers contextes, mais dans le Nouveau Testament, il revêt un sens bien défini. Il est employé pour décrire l'amour de Dieu. Dieu est amour dans sa nature même. Dieu est amour. Dieu n'aime pas seulement, il est amour lui-même. Tout ce qu'il fait découle de son amour. Agapé est également employé pour décrire notre amour pour Dieu. En Luc 10, 27, nous lisons « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » C'est le même agapé qui est utilisé dans ce verset. Et le respect et la fidélité d'un serviteur pour son maître, c'est le même mot. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Matthieu 6, 24. Et l'attachement au monde et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise, disent Jean 3, 19. L'amour de Dieu n'est pas un doux sentiment, comme c'est souvent décrit dans le monde, comme nous imaginons aussi souvent. Dieu aime parce qu'il est amour, qu'il sait que c'est sa nature et l'expression de son être. Il aime même ceux qui ne sont pas aimables. Non à cause de notre mérite ou vertu, mais parce que c'est sa nature et qu'il ne peut se renier lui-même. Et donc l'amour agapé se manifeste toujours en acte. L'amour de Dieu se manifeste le plus clairement à la croix. Éphésiens 2, 4 à 5, nous lisons « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous n'avons pas mérité un tel sacrifice. Mais en Romains 5, 8, nous lisons « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour agapé de Dieu est immérité, gracieux et cherche toujours le bien de ceux qu'il aime. La Bible dit que Dieu nous aime d'un tel amour immérité. 1 Jean 3, 1, l'amour agapé de Dieu l'a mené au sacrifice de son Fils pour nous. Et ce que nous voyons en Jean 3, 16 aussi. Nous devons aimer les autres de l'amour agapé, qu'il s'agisse de nos frères dans la foi. Jean 13, 34, le Seigneur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais aussi aimez-vous les uns les autres. Ou d'ennemis mortels. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Donc, on peut voir la définition de ce mot, la véritable amour, ce qui est agapé. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous donne un exemple de sacrifice pour les autres, même pour ceux qui ne tiennent aucun compte de nous. L'amour agapé, dont Christ est le modèle, n'est pas fondé sur les sentiments. Il s'agit d'un choix qui engage notre volonté, de la disposition volontaire à faire passer le bien-être des autres avant le nôtre. J'ai toujours posé la question aussi, quand je suis en train de venir au temple, à l'église, chaque dimanche matin, et souvent nous sommes pressés, n'est-ce pas? Et si je devrais arrêter la voiture pour aider quelqu'un, j'ai toujours posé la question, est-ce que je vais arrêter ou pas? Mais ce qui s'est arrivé ce matin, c'est que ma voiture allait tomber en panne et j'étais bloqué pendant longtemps avec la famille. Et dans l'autre sens, un jeune homme, il a arrêté la voiture. Il m'a demandé, « Monsieur, vous avez besoin de l'aide? » J'avais besoin. J'ai dit, « Oui, si vous pouvez. » Mais donc, il a dit, « Restez, je vais faire le tour, je viens. » Il est venu. Il a apporté l'aide qu'il a pu. Et cet amour qui demande rien. Je ne méritais pas cet amour de ce jeune homme. Je pense qu'il est chrétien. Après, on a pu parler. Il a dit qu'il était chrétien aussi. C'est ça l'amour qu'on voit dans la parabole de Bon Samaritain. Un exemple de sacrifice pour les autres, même pour ceux qui ne tiennent aucun compte de nous. Je ne peux pas rendre ce que ce jeune homme il a fait. L'amour agapé dont Christ est le modèle n'est pas fondé sur les sentiments. Et bien souvent, quand on parle de l'amour dans ce monde, on détruit l'amour pour un sentiment, pour une émotion. Il s'agit d'un choix qui engage notre volonté, de la disposition volontaire à faire passer le bien-être des autres avant le nôtre. L'amour agapé ne nous est pas naturel. À cause de notre nature déchue, nous sommes incapables d'aimer ainsi. J'espère que nous rendons compte que nous ne sommes pas naturellement capables d'aimer Dieu et nous ne sommes pas capables d'aimer nos prochains. Et nous sommes remplis d'égoïsme. Nous ne pouvons aimer comme Dieu qu'en puisant notre amour, notre agapé, à sa source. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en tant que des enfants de Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous sommes devenus ses enfants, Romains 5, 5. Et aussi en Galates 5, 22, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. En Jean 3, 16, parce que Dieu nous a aimés, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Ce que nous faisons, c'est nous reflétons l'amour de Dieu envers les autres. Après avoir élaboré sur le sujet d'amour et l'amour de Dieu, je voudrais vous amener pour faire face à une question vitale qui se trouve dans le dernier livre de la Bible. Vous savez que la Bible elle-même est une lettre écrite par Dieu à nous. Et dans ce livre d'Apocalypse, Dieu lui-même invoque un sujet crucial qu'aucun de nous ne voudrait pas être abordé. C'est la pensée de Dieu, c'est une question. Et donc, je vous demande de tourner avec moi en Apocalypse, livre d'Apocalypse, chapitre 2. On va lire ce passage à partir de versets 1 jusqu'à 7. Apocalypse 2, on va lire les 7 premiers versets. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Regardez le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu t'es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, ce que tu haïs, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la première lettre que Jésus dicte à Jean, destinée à l'église d'Éphèse. Cette congrégation, cette assemblée est louée pour sa patience et pour avoir rejeté à juste titre les faux docteurs ou les faux apôtres. Malgré un si excellent début, cependant, Éphèse avait abandonné son premier amour. Quand je dis Éphèse, c'est l'église d'Éphèse. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils dérivaient vers la froideur et la religiosité dans leur cœur. Jésus ordonne cette église de se souvenir de ses premiers jours, de se repentir et de se conduire comme elle l'avait fait initialement. Il promet une récompense aux vainqueurs. Regardez, après avoir félicité l'église d'Éphèse pour son intégrité doctrinale et sa persévérance face à l'adversité, Jésus révèle au verset 4 ce qu'il a trouvé manquant dans l'église d'Éphèse. Il donne beaucoup de compliments, n'est-ce pas, à cette église, mais dans le verset 4, il trouve ce qui manque dans l'église d'Éphèse. Il avait abandonné l'amour qui caractérisait ses débuts de l'histoire de cette église. Ce qui restait était la dévotion à la vérité de la parole ou doctrine, mais pas la dévotion et l'amour pour le Seigneur. Mais je pense que c'est un piège qu'on peut tomber à toute église et nous tous. On peut être attaché à la parole de Dieu, la doctrine, la théologie et beaucoup d'autres choses, mais on peut abandonner le Seigneur. On peut diminuer dans notre amour pour le Seigneur. À quoi ressemblerait un mariage si une femme accomplissait tous les devoirs d'une femme, mais sans amour sincère pour son mari? Mais je trouve que c'est une belle image que le Seigneur a mis, cette métaphore que l'Église, c'est l'épouse de Christ qui est l'époux de l'Église. Et puisqu'on peut comprendre, le Seigneur souvent utilise la métaphore où les gens comme nous peuvent comprendre tout simplement. Donc, à quoi ressemblerait un mariage si une femme accomplissait tous les devoirs d'une femme, mais sans amour sincère pour son mari? À quoi ressemblerait un mariage si un mari continuait à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et continuait à accomplir les tâches ménagères habituelles qui incombent à un mari, mais n'aimait plus sa femme? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Dans un couple, dans le mariage, ça peut arriver. Et on peut accomplir nos devoirs, mais avec un manque d'amour. Le mariage ne serait-il pas une relation froide et stérile? D'autre part, le devoir accompli par amour pour son conjoint donne un sens et de la chaleur à son mariage. Cette réprimande de Dieu à son Église, à son peuple, qui se trouve dans le Nouveau Testament, n'est pas nouvelle et n'est pas la première pour le peuple de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, on trouve un passage similaire que Dieu demande à son peuple. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons ce passage similaire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 2, on va lire le verset 1 à 5. Le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 2, on va lire le passage à partir de verset 1 jusqu'à 5. Donc Jérémie, chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui en mangeait se rendait coupable, et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous toutes, famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? C'est très fort, n'est-ce pas? On peut sentir le cœur de Dieu. Comment il peut sentir quand son peuple ne l'aime plus comme avant. Quand l'amour il est diminué, comment Dieu ressent-il? Et comment savoir si vous avez perdu votre premier amour pour le Seigneur? Est-ce qu'on a déjà pensé à cette question? Est-ce que nous posons cette question dans notre vie chrétienne? Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un jour, j'ai donné mon cœur au Seigneur, je crus, et après j'étais baptisé. La vie continue. Mais je pense que tous les jours, on devrait poser les questions. Est-ce que j'aime véritablement le Seigneur? Est-ce que mon amour augmente jour après jour? Normalement, ça devrait augmenter. Hein? Parce que jour après jour, nous sommes censés de connaître notre Dieu davantage, de connaître son cœur. Car normalement, nous lisons la Bible, nous sommes en communion avec Dieu et notre amour devrait augmenter. Nous voyons le prodige qu'il opère dans notre vie. Nous voyons le miracle qu'il opère dans notre vie. Nous avons goûté sa bonté, sa fidélité, sa grâce et sa miséricorde. Donc notre amour, normalement, ça devrait augmenter. Mais arrêtons pour un moment. Posons cette question. Est-ce que j'aime le Seigneur comme je l'aimais dans ma jeunesse spirituelle? Quand j'étais un jeune chrétien, quand je suis venu au Seigneur, peut-être je dévorais la parole, je voulais découvrir le Seigneur de plus en plus. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis... Quel est mon état spirituel aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que je l'aime comme toujours? Est-ce que mon amour pour lui augmente jour après jour ou je suis statique? Qu'est-ce qui fait que la parole devient rare ou éloignée dans ma vie? Si je n'ai plus envie de lire la parole de Dieu, ça peut arriver qu'il y a des jours, on n'a plus envie de lire la parole de Dieu. On peut être dans une situation terrible, désespérée, mais on n'a pas envie de prier ou lire la parole. Mais est-ce que ça continue comme ça? Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui tombe souvent, mais se relève, il relève, et il commence à marcher après. Il ne peut pas être statique. Il ne peut pas être comme ce fils prodigue qui est parti loin de son père, qui se trouve un jour parmi les cochons. Il n'est pas voulu rester là-bas. Il a dit que chez mon père, il a eu cette pensée. Il n'a pas oublié son père. Il a eu cette pensée chez mon père. Il y a des serviteurs qui mangent bien. Et je vais me lever et partir chez mon père. Pardon. Donc, qu'est-ce qui fait que la parole devient rare ou éloignée dans ma vie? Est-ce que j'ai un dégoût pour la parole? Je ne dis pas uniquement pour lire la parole de Dieu, même pour écouter la parole de Dieu. Dans n'importe quelle forme, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que j'ai un... On peut penser, mais... Chaque dimanche, on entend la même chose. Mais si nous écoutons pas le Seigneur, nous entendrons la même chose. Le Seigneur, il a toujours le message à son Église. Le Seigneur, il a toujours un message pour son enfant. Pourquoi ne pouvons-nous pas aimer Dieu davantage tout le temps, comme dans nos premiers jours? Qu'est-ce que ça nous empêche d'aimer le Seigneur? Et certainement, il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Une anecdote, apparemment dans une église, un jeune homme qui était en train de prier chaque dimanche, « Seigneur, enlève la toile d'araignée qui est dans ma vie. » Donc, il était en train de prier comme ça chaque semaine. Il y avait un vieux frère qui était là. Il écoutait, mais un jour, quand le jeune homme est en train de prier, il a dit, il faut tuer l'araignée. Mais on peut plaigner qu'il y a la toile d'araignée qui nous empêche d'avancer. Mais il faut trouver et tuer les araignées qui peuvent nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Qu'est-ce qui éteint notre enthousiasme pour Dieu? Il faut identifier les choses qui peuvent éteindre notre enthousiasme pour Dieu. Si on ne trouve pas, on ne peut pas éradiquer ces choses. S'il y a les dégâts, mais je pense que dans le psaume, dans le cantique des cantiques, il y a un verset qui dit que attrapez-nous le petit renard qui détruit les jardins, nos jardins. Parfois, il y a des petits renards qui rongent notre jardin. Et nous devrions garder notre jardin, notre cœur, sécurisé, puisque des autres choses ne viennent pas ronger notre vie spirituelle, qui peut empêcher de grandir dans notre amour. Permettez-moi de vous donner quelques raisons pour cette question. Comment savoir si vous avez perdu votre premier amour pour le Seigneur? Et premièrement, se réjouir davantage de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que le Seigneur. On a le Seigneur dans notre cœur. Quand nous avons invité le Seigneur dans notre cœur, nous avons le Seigneur dans notre cœur, certes. Mais on commence à se divertir, on commence à regarder les autres personnes ou d'autres choses. Ça peut être une personne ou une autre chose ça nous intéresse. Et on commence à donner plus d'importance pour cette chose ou pour cette personne plus que le Seigneur. Vous savez, le premier commandement de ce 10 commandements que le Seigneur a donné à ses enfants, aux enfants d'Israël, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, versets 2 et 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir des autres dieux, entre guillemets, à côté. Mais ce qui se passe souvent, c'est on a Dieu dans nos cœurs, mais après, nous ne sommes pas conscients, mais on commence à ériger des autres idoles, des autres autels, des autres dieux dans notre cœur. Quand je dis Dieu, les dieux minuscules, hein, des minuscules. On commence à ériger des autres dieux dans notre cœur qui commencent à prendre sa place. Quand Dieu dit qu'il n'y aura pas d'autres dieux devant ma face, il y a Dieu. Après, vous pouvez avoir des autres dieux. On ne peut pas renier. Hein? Ça existe, n'est-ce pas? Nous sommes tous humains. On peut être fan de quelque chose, fan d'un sport, fan de quelqu'un, l'admiration pour quelqu'un, ce n'est pas mauvais d'admirer les gens, ou d'admirer les choses, de bonnes choses dans la vie. Mais quand on commence à admirer, on place en égalité avec Dieu, que Dieu perd sa place. Dieu perd sa place. Donc, il nous a commandé d'adorer Dieu seulement et rien d'autre, n'est-ce pas? Si vous encombrez votre cœur avec des autres dieux ou idoles, et les placer en égalité avec le seul Dieu, ou parfois même au-dessus de lui, nous avons tendance à évincer le Seigneur de notre vie, à nous laisser distraire, ou à nous distraire et à dérégler nos priorités. Et nos priorités changent, on ne sait pas, parfois on est confus, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Qu'est-ce que je devrais, pour laquelle chose je devrais donner la première place? Pour le Seigneur ou pour autre chose? Est-ce que je donne la priorité aux choses que le Seigneur s'intéresse ou les choses que moi je m'intéresse? Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton toute ta pensée et toute ta force. Je pense que c'est complet, n'est-ce pas, cette verset? Tu aimeras ton Dieu, aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, le cœur entier, on ne peut pas diviser le cœur et partager avec un autre Dieu, avec un autre idole, avec une autre personne. Et notre cœur appartient à Dieu. de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta pensée. Mais on devrait penser à ça. Est-ce qu'on aime Dieu de toute notre pensée? Sinon, notre pensée, ça vague dans la vie. Est-ce que notre pensée, on arrive à mettre notre pensée consacrée à Dieu seul et de toute ta force? Mais nous devrions penser pour quelle autre chose que nous utilisons notre force, notre énergie. Et bien souvent, le dimanche matin, on vient fatigué. C'est le week-end, mais on vient fatigué parce que la semaine, on a donné notre maximum à notre employeur ou autre chose. Le samedi soir, on a donné pour autre chose et le dimanche matin, on n'arrive pas à nous lever. Et le Seigneur dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ta force. Et le deuxième, perdre le désir et le désir dans mon âme de tant de communion étroite avec le Seigneur dans sa parole et dans la prière. Si on perd le désir de mon âme, du temps de communion étroite avec le Seigneur dans sa parole et la prière. Remarquez le mot « âme » dans le verset ci-dessus. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et que nous n'aimons pas lire ou entendre sa parole. Bien souvent, si on peut poser la question à tous ici, est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous allez dire peut-être « oui, j'aime le Seigneur ». Mais si nous aimons le Seigneur, nous devrions aimer sa parole. Car la parole a fait chair et habité parmi nous. Et si nous aimons le Seigneur, mais comment ne pas aimer sa parole? C'est une question que nous devrions nous poser. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et que nous n'aimons pas le moment de communion intime avec lui dans la prière. Mais je suis sûr que nous aimons le Seigneur. Mais peut-être dans notre cœur, nous sommes un peu confus par rapport à ces choses. Nous aimons le Seigneur, certes, mais nous devrions régler notre vie par rapport à l'amour que nous professons. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et troisièmement, cédez ma vie aux choses sciemment qui déplaisent au Seigneur. On sait très bien que ces choses ne plaisent pas Dieu. Mais consciemment, je vais me céder ma vie à ces choses. Consciemment, je peux céder ma vie, céder mon énergie, céder mon âme, mon amour. Et consciemment, on a une certaine laisser-faire. On laisse ces choses prendre notre vie. On laisse ces choses prendre racine dans notre vie qui peut déplaire le Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Donc, si on garde le commandement de Dieu, on demeure dans l'amour de Dieu. Et vice-versa, si on a l'amour pour le Seigneur, nous devrions garder ses commandements. Les deux ne sont pas séparés. Et quatrièmement, quand je ne donne pas volontairement et joyeusement à l'œuvre de Dieu ou aux besoins des autres, je perds mon premier amour. Si nous, dans notre cœur, on a cette désintéressement, où on n'a pas envie d'aider les autres avec les choses matérielles que j'ai, je peux poser la question, est-ce que véritablement j'aime le Seigneur? Le Seigneur dit en 1 Jean 3, 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Et quand quelqu'un possède les biens du monde, mais si nous possédons les biens du monde, nous pensons que c'est pour nous. Non, le Seigneur, il a donné puisqu'on peut aider les autres. Ce n'est pas puisqu'on peut ramasser, comme cet homme insensé, il a dit, quand la terre l'a beaucoup produit, il a dit que voilà ce que je vais faire. Je vais bâtir les greniers, je vais garder tout ça, c'est pour moi, et je vais vivre en paix. Mais le Seigneur a dit, insensé, si dans cette nuit, ton âme il est repris, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cela? Donc, si le Seigneur nous a bénis avec les choses matérielles, c'est pour partager avec les autres, avec nos frères et sœurs, et aussi pour mettre à son service. Nous devrions poser la question si nous avons un désintéressement dans l'œuvre du Seigneur par rapport à ce sujet. Et cinquièmement, quand je cesserai de traiter chaque chrétien comme je le ferai avec le Seigneur. Et comment nous traitons le Seigneur? Si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous aimons Dieu, et comment je le traite? Et si je traite le Seigneur d'une façon et je traite un enfant de Dieu d'une autre façon, ça veut dire que j'ai un problème. J'ai un problème. L'impolitesse, on peut être très impoli, ou on peut même haïr la haine, la dispute, l'égoïsme, etc. Ou priveront de votre enthousiasme spirituel, de votre zèle, de votre proximité avec le Seigneur. Si on a des problèmes avec des autres, mais si la haine, si nous avons la haine pour nos frères et sœurs, pour des autres, et toutes ces choses-là, ça peut nous priver de notre enthousiasme spirituel et votre zèle de votre proximité avec le Seigneur. Mais bien souvent, nous ne rendons pas compte de ce qui a enlevé mon amour pour Dieu, ce qui a diminué mon amour pour Dieu. Mais ces choses, si nous ne contrôlons pas, si on ne pense pas, ça nous dérobe notre amour que nous avons réservé pour notre Dieu. Et sixièmement, je perdrai mon amour, premier amour si je m'efforce intérieurement de devenir célèbre, populaire et acclamé par ce monde plutôt que par approbation de Jésus-Christ. Mais dans la vie chrétienne, on cherche quoi? On cherche la gloire de Dieu? On cherche l'approbation de Dieu? Ou on cherche l'approbation du monde? La reconnaissance du monde? On veut que le monde il me regarde d'une certaine façon. Oui, je suis chrétien, mais le monde, je ne veux pas être débarrassé par ce monde. Je veux que je sois vu d'une certaine manière. Donc, si nous cherchons les choses comme cela, demandez-vous, qui est le plus important dans ma vie? Qui est le plus important? Dans l'opinion de la faveur et ce que j'apprécie le plus, est-ce que j'apprécie la foule ou le Christ? Pilate, il se trouvait dans cette situation. La foule, il demandait autre chose. Mais finalement, Pilate, il a cédé aux foules. Il a abandonné le Seigneur, le prince de la vie. Que j'apprécie le plus, la foule ou le Christ? Jean a averti dans 1 Jean 2, 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous pensez peut-être ainsi, « Si je vis pour Jésus, les gens se moqueront de moi. » Ou vous craignez l'acceptation de ce monde? Jésus a abordé cette question en Jean 15, 19 à 20. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mais le problème avec nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, et que nous voulons être mieux traités que notre maître. Nous voulons être mieux traités que notre maître. Notre maître, il n'a pas été traité comme il le faut. Hein? La semaine dernière, nous avons vu en Isaïe 53. Mais nous, à l'intérieur, nous avons une envie que pour être mieux traités, que les gens nous traitent mieux que notre maître. Et septièmement, devenir complaisant et apathique face aux conditions pécheresses autour de moi ou dans ma vie. Quand une personne s'habitue à son péché et ne soucie plus des conséquences, elle devient plus dure dans son cœur. Et garder notre conscience le plus tendre possible. Est-ce qu'on est affecté par une petite chose qui peut briser notre cœur? Ou même si beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il est estimé que, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais aujourd'hui ça devrait être encore pire. C'est estimé qu'un enfant au-dessus de 5 ans, il a vu plus de 5 meurtres déjà dans la télé, dans l'écran. Mais je pense que c'est aujourd'hui, c'est le meurtre est devenu banal. Et on voit les choses que nous devrions pas voir. On voit les choses que nous devrions pas voir. Et est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce que devient ma conscience? Et Dieu veut que je garde ma conscience tendre et pure. Et si je deviens complaisant et apathique face aux conditions pécheresses autour de moi ou dans ma vie, comment l'amour de Dieu peut augmenter dans mon cœur? Matthieu 24, 9 à 12. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour, de plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur a dit que dans le dernier jour, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc c'est quelque chose qu'on ne devrait pas s'étonner, mais ces choses arrivera. Mais comment nous, on peut garder notre cœur pur et tendre? On dit qu'on ne peut pas empêcher on passe dans la rue, et surtout dans notre pays, mais la publicité, c'est de plus en plus moche. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, je voudrais vous dire. C'est de plus en plus moche. Et on peut voir, mais on n'est pas censé de fixer nos regards pour voir ces publicités. Et on peut pas empêcher les corbeaux à envoler sur nos têtes, mais on ne peut pas laisser les corbeaux faire leur nid sur nos têtes. Donc, ces choses arriveront, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais donc, nous devrions faire plus d'attention, plus de précaution pour garder notre cœur pur et tendre. Évidemment, je perdrai mon premier amour si je ne veux pas pardonner à quelqu'un qui m'a blessé ou offensé. Je perdrai mon premier amour si je ne veux pas pardonner à quelqu'un qui m'a blessé ou offensé. L'amertume et l'amour pour le Seigneur ne s'entendent pas dans un seul cœur. On ne peut pas avoir l'amour pour le Seigneur et l'amertume pour les autres ou de l'amertume dans mon cœur. On peut avoir 1000 raisons pour avoir l'amertume. On peut avoir 1000 raisons pour avoir l'amertume dans la vie chrétienne. Mais est-ce que je peux vivre avec l'amertume? Et pour combien de temps je peux vivre avec l'amertume? Le Seigneur est capable de changer de l'eau de marat en eau douce. Et l'amertume, l'amour pour le Seigneur ne s'entendent pas dans un seul cœur. Un seul résidera. Certaines personnes ne grandissent pas parce qu'elles ne pardonnent pas à ceux qui leur ont fait du tort. Certains sont si amers qu'ils ne veulent pas entendre même pas leur nom. L'amertume vous fera rester coincé dans le boue spirituellement. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps amers. Ils sont amers par rapport à beaucoup de choses. Mais la parole nous dit, nous demande de se réjouir dans le Seigneur, d'être rempli de la joie, pas d'amertume. Mais l'amertume vous fera rester coincé dans le boue spirituellement. Vous allez tourner en rond sans avancer dans la vie spirituelle et votre amour pour Dieu ne croîtra pas mais diminuera jour après jour. Si on pose la question, mais pourquoi je n'ai pas l'amour comme j'avais d'autres fois? Peut-être qu'il y a de l'amertume dans votre vie et l'amertume dans votre cœur qui vous ne laisse pas avancer dans votre vie pour le Seigneur, qui ne vous laisse pas aimer le Seigneur comme vous devrez l'aimer. 1 Jean 4, 20 à 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et que j'haïsse son frère, c'est un menteur. On ne peut pas aimer et haïr à la fois. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais bien sûr, c'est ça le problème dans les églises. On dit que j'aime le Seigneur, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas parler avec tel frère ou telle soeur. Je ne peux pas supporter cette personne. Mais comment c'est-il possible? Les deux à la fois. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son... Il peut dire. Mais cette personne, si il ne montre aucun amour avec ses prochains, on peut poser la question, est-ce que véritablement cette personne aime Dieu? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Mais comment vous pouvez prouver qu'on aime Dieu? La question est persistante. Avez-vous perdu votre premier amour? Avez-vous perdu votre premier amour? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le premier verset en Apocalypse 2. Celui qui vient du contexte est clairement Jésus-Christ ressuscité et glorifié. L'époux de l'Église, le verbe « tient » pour être possédé du pouvoir et au présent, représente Jésus ayant continuellement une emprise ferme sur toutes ses églises. Sa main droite représente la main du pouvoir et de l'autorité. L'Église appartient à Jésus, indiquant que les Églises sont en toute sécurité à sa portée. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur le dit ça. Donc, il tient ses Églises. C'est, il a le pouvoir sur ses églises, pour notre église, sur notre église. Les mots, celui qui tient, nous indique son contact étroit avec ses églises, son contrôle sur celles-ci et la base solide qu'il a fournie à chacune de ses églises. Il est souverain sur son église. Il est seigneur et maître sur son église. Et le verset... prochain, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le même verset, pardon. Voici ce qu'il dit, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, celui qui marche est, dans le grec, c'est peripatio, qui représente littéralement Jésus marchant et le présent. Le présent représente marchant continuellement. Mais on voit mal, n'est-ce pas, cette image que Jésus est en train de promener dans nos, parmi les bancs dans notre église, en train de voir chaque personne. Il est toujours au milieu de tout ce qui se passe dans son église. Rien ne lui est caché. Il n'est pas éloigné de la vie de l'église. Il est la vie de l'église. En comparant l'écriture avec les écritures, les sept chandeliers sont les sept églises. Apocalypse 1, 20, plus bas. Jésus marche naturellement autour de sept églises. Cela parle de son omniscience, son autorité, de sa direction. Il se promène aussi autour de votre église, les yeux enflammés, évaluant parfaitement le cœur de chaque personne. Comment voit-il votre église ce matin? Risquez-vous de faire enlever le chandelier sur lequel on pose la bougie ou la lampe? Pourquoi les appelle-t-on des chandeliers? Les chandeliers littéraux étaient des supports sur lesquels la lampe était placée pour éclairer l'obscurité. Spirituellement parlant, chaque église devrait fournir une lumière spirituelle aux ténèbres morales du monde perdu. Nous sommes placés sur un chandelier pour éclairer le monde qui est perdu. L'église devrait être la source pour proclamer Jésus, la lumière du monde. Jésus a demandé à ceux qui seraient ses disciples que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous avons une fonction d'éclairer autour de nous. Et aux Philippiens, l'apôtre Paul écrivit, Philippiens 2, je vais lire, manque de temps, Philippiens 2, 12 à 16, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu. » Comprenons-nous notre devoir, notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que des enfants de Dieu? Une vie sainte fera la plus profonde impression. Vous savez, les phares ne possèdent pas des sirènes, ne font pas de bruit, ils brillent simplement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Daniel Moody. Les phares, ils ne font pas le bruit, ils brillent simplement pour montrer le chemin, pour montrer sa présence au bateau dans la mer. Le Seigneur dit dans le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. » Donc, il dit beaucoup de bonnes choses par rapport à cette église d'Éphèse. Il y a beaucoup de choses positives. Je connais. Le Seigneur dit, je connais. Jésus sait avec certitude et sans aucun doute sur nous tous et sur chacun de nous. L'utilisation de ce verbe indique que Jésus connaît intimement tous les aspects de cette église. Il a une parfaite connaissance de cette église. Rien ne lui est caché. Jésus voit parfaitement dans notre cœur et connaît chacune de nos pensées. Que nous le disons ou non, il connaît tous les motifs, même pour nos bonnes actions. Il n'y a pas de créature cachée à sa vue, mais toutes choses sont ouvertes et mises à nu et exposées aux yeux de celui que nous devons rendre compte. La réalité de cette vérité devrait nous donner la raison de nous arrêter lorsque nous sommes tentés de nous égarer. Parce que nous ne pouvons jamais nous éloigner ou nous cacher de son parfait regard perçant. Cette vérité devrait nous motiver par son esprit à nier l'impiété de désirs mondains et à vivre avec la justice et piété dans ce monde actuel. Rappelez-vous de Psaume 139, quand le psalmiste dit, Où j'irai loin de toi? Tu es partout. Comment Christ pouvait-il savoir si parfaitement? Bien sûr, il est le Dieu omniscient. Et dans le contexte, Jean nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Rien ne pouvait lui être caché. Nous pourrions essayer d'ériger des barrières à travers lesquelles il ne pouvait pas voir, mais ses yeux, comme une flamme de feu brûlant, brûlent toutes les excuses qu'on peut donner, toutes les justificatifs que nous pouvons donner, que nous pourrions essayer de donner à Dieu. Et je connais tes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Il n'a pas dit que je connais tes paroles. Mais souvent, nous voyons les chrétiens qui font beaucoup de blabla. Mais la parole, c'est autre chose. Et il dit que je connais tes œuvres. Je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Est-ce que nous arrivons à trouver, à distinguer entre le faux prophète, entre la parole de Dieu et le mensonge? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Combien de points notre église elle peut identifier avec cette église à Éphèse? Mais pourtant, le Seigneur dit que tu as perdu ton premier amour. Et je vais conclure. La confrontation de Jésus-Christ avec l'église d'Éphèse montre comment nous, les croyants, doivent faire face. La confrontation se faisait avec amour et dans le but de la restauration. Et le Seigneur, il confronte cette église, mais nous voyons, il fait ça avec beaucoup d'amour. Et dans le but de restauration, et l'encouragement a précédé la correction. Le Seigneur, il corrige cette église quand il dit que tu as perdu ton premier amour. Mais avant la correction, il y a l'encouragement. Il précède la correction. Christ a annoncé le problème ouvertement et de manière concise. Il vient direct au problème. Tu as perdu ton premier amour. Il leur a dit comment être restauré. Il donne le chemin. Souvenez-vous de votre passé, repentez-vous de votre erreur, revenez à Christ. Christ a clairement exposé les conséquences s'il n'obéissait pas. Il a écrit avec l'espoir qu'il répondrait positivement. Une église n'a aucune raison d'être une église quand elle n'a pas d'amour dans son cœur ou quand cet amour se refroidit. Perdez l'amour, perdez tout. Quand l'amour meurt, la doctrine orthodoxe devient un cadavre, un formalisme impuissant. L'adhésion à la vérité se transforme en fanatisme lorsque la douceur et la lumière de l'amour pour Jésus s'en vont, dit Spurgeon. Un autre auteur, je vais lire ses citations, ce qu'il a écrit. Il s'appelle Stephen Lawson, et on connaît, on a lu ses livres. Je lis ce qu'il avait écrit. Comme dans toute relation, notre amour pour le Christ est sujet à fluctuation. On ne peut pas dire que j'aime le Seigneur toujours de la même manière. On a connu la vallée et les montagnes dans notre expérience chrétienne. Et comme dans toute relation, notre amour pour le Christ est sujet à fluctuation. Bien que cette relation ne puisse jamais être brisée, elle peut subir une grave baisse d'intensité. Parfois, notre passion pour Christ explose et grandit. Et à d'autres moments, il devient rassis. Cela peut devenir stagnant, statique, mécanique, routinier, et nous commençons simplement à passer par les mouvements vide du christianisme dans un amour flamboyant et ardent pour lui. Malheureusement, c'est précisément ce qui s'est passé à Éphèse. L'église là-bas était une grande église. Ils croyaient bien, ils servaient exhaustivement, ils défendaient vaillamment, mais quelque chose manquait au fil du temps. Et ce qui manquait, c'est qu'ils avaient quitté leur premier amour. Ils ne l'avaient pas quitté en totalité, car c'est impossible, car rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Romains 8, 35. Mais il avait laissé en partie. Une fois en feu pour Christ, leur passion flamboyante s'était refroidie et en vacillement. Ils venaient encore, servaient, croyaient justement, mais leur cœur n'était plus un autel sur lequel le feu de Christ brûlait vivement. Leur activité pour Christ avait commencé à supprimer leur intimité avec Christ. Pour faire, j'arrête ici, on peut faire beaucoup de choses dans l'Église. On peut prêcher, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses magnifiques dans l'Église. Si toutes ces choses se sont faites sans amour pour le Seigneur, ça ne servira à rien. On peut être bien actif, on peut être un membre bien actif dans l'Église. Si nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur, si nous ne démontrons pas notre intimité avec Christ, ça ne servira à rien. Je recommence, et plutôt que d'être une relation, leur christianisme était devenu une performance. Ça devient un show. Le dimanche matin, le culte peut devenir un show. Ils avaient la tête pleine, les pieds occupés et leur cœur froid. La tête est remplie de connaissances, de la parole, de la doctrine. Les pieds très occupés, mais leur cœur froid. La lueur avait disparu. Où êtes-vous? Parce que parfois, plus nous impliquons dans le service du Seigneur, il peut y avoir un sacrifice dans notre communion personnelle et notre communion avec le Seigneur. Il faut faire attention que, essentiellement, les choses qu'on peut faire dans l'Église, c'est des bonnes choses. Mais parfois, une bonne chose, il peut dérober l'essentiel, les choses de base. Votre passion pour Christ est-elle dynamique? Votre amour est-il estompé? Un bon antidote pour qu'une église ne perde pas son premier amour est d'intercéder fréquemment, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement pour les membres du corps avec la prière de Paul. Écoutez ce que l'apôtre Paul a prié. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce grand prédicateur Warren Wiersbe, il dit, cette église d'Éphèse, séparée, sanctificatrice, sacrificatrice, souffrait vraiment de problèmes de cœur. Ils avaient abandonné leur premier amour. Ils ont affiché des œuvres, le travail et la patience, mais ces qualités n'étaient pas motivées par l'amour pour Christ. Ce que nous faisons pour le Seigneur est important, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous le faisons. Qu'est-ce que le premier amour? Premier amour, c'est la dévotion au Christ qui caractérise si souvent le nouveau croyant, fervent, personnel, décomplexé, excité et ouvertement affiché. Et pour souvenir ce que Jérémie, nous avons lu à Jérémie, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. C'est l'amour de lune de miel, du mari et de la femme. S'il est vrai que l'amour conjugal, Matthieu, s'approfondit et s'enrichit, il est également vrai qu'il ne devrait jamais perdre l'excitation et l'émerveillement de ces jours de lune de miel. Mais quand on lit la parole ou quand on chante un cantique, quand nous écoutons la parole, est-ce que nous tombons parfois dans l'émerveillement par rapport à notre Seigneur? Ou c'est monotone, notre vie avec lui, est-ce que c'est monotone? Quand un mari et sa femme commencent à se prendre pour acquis et que la vie devient routinière, alors le mariage est en danger. Pensez-y, il est possible de servir, de sacrifier et de souffrir même, et pourtant n'est pas vraiment aimé Jésus-Christ. Les croyants d'Éphèse étaient tellement occupés à maintenir leur séparation qu'ils négligeaient l'adoration. Ils étaient bien séparés du monde, mais ils ont négligé leur adoration pour leur Dieu. Quand je dis adoration, leur émerveillement, leur attachement à lui. Le travail ne remplace pas l'amour. La pureté n'est pas non plus un substitut à la passion. L'Église doit avoir les deux s'il veut plaire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur il a posé une question à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre il était sûr de lui-même. Et je lis ce passage en Jean 21. Après qu'il eurent mangé, Jésus a dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes oignons. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. Et ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Parfois, nous prenons des choses pour acquis. On pense qu'on aime le Seigneur. Mais la même question, Jésus peut nous poser, « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu comme le premier jour que tu m'as aimé ?» Et que nous allons répondre, le Seigneur dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Elle nous donne la force pour l'aimer comme nous avons aimé le premier jour. Nous devons raviver cette flamme d'amour pour lui, hein. Si il y a des choses qui peuvent nous empêcher de l'aimer, nous devrions faire tout effort pour écarter ces choses. Si la lecture de la parole ou assistance dans le rassemblement des chrétiens qui nous manquent, nous devrions ranimer notre esprit dans ces choses, puisque notre amour pour le Seigneur peut augmenter davantage. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes arrêtés par cette question ou par cet commentaire que tu as fait pour l'église d'Éphèse. Tu as perdu le premier amour que tu avais pour moi. Seigneur, constatation pertinente, Seigneur, qui touche à notre vie. Seigneur, oui, peut-être nous ne t'aimons pas comme nous avons aimé le premier jour. Seigneur, peut-être notre amour est diminué dans les jours par la tracasse de la vie. Seigneur, il y a des choses qui nous pressent, des choses mondaines, Seigneur, qui nous pressent. Ça peut être les choses valide, mais nous savons que c'est inutile quand nous comparons avec ton amour. Seigneur, tu nous as tant aimé que tu as donné ton fils Jésus-Christ. Tu nous as tant aimé que tu as sacrifié toi-même. Seigneur, tu nous as tant aimé, Seigneur, que Seigneur, tu nous as donné ton Esprit Saint en nous. Seigneur, puisqu'on peut marcher selon ta loi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, comme Pierre a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Nous te prions, Seigneur, que tu sondes nos cœurs ce matin pour savoir combien nous t'aimons. Seigneur, si ce n'est pas le cas, Seigneur, nous te prions que tu parles dans notre cœur. Seigneur, enseigne-nous et corrige nos sentiers, Seigneur. Mets-nous sur le bon chemin, afin que, Seigneur, nous pouvons t'aimer premièrement, au-dessus de toute autre chose dans ce monde, pour pouvoir t'aimer plus que notre vie même et nous-mêmes. Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, que notre Église peut être comme une Église, Seigneur, comme cette Église d'Éphèse, mais Seigneur, de ne pas perdre son amour pour toi et jusqu'à la fin de son existence sur cette terre, jusqu'à le jour que tu viendras la prendre. Seigneur, nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.